Acteur touristique incontournable en Normandie, niché sur les hauteurs du Pré-Bocage, le zoo de Jurc a reçu hier après-midi la visite du président de région. Hervé Morin est venu confirmer sur place l'octroi d'un prêt à taux zéro d'un montant de 200 000 euros pour soutenir le parc fermé depuis un mois et demi et donc privé de recettes billetterie tout en devant assumer les charges de fonctionnement liées notamment à l'alimentation des quelques 700 animaux. Au pas de charge, Hervé Morin a pu visiter le zoo qui accueille chaque année un peu plus de 110 000 visiteurs.
Donc là aujourd'hui vous avez de la chance, vous allez être tout seul dans le parc.
C'est ça.
Allez, on va aller voir les tigres alors.
Et Rio, quand on gratouille, normalement il se couche. Alors, je sais pas s'il va vouloir aujourd'hui mais...
Charlotte, vous voulez pas rentrer dans le parc pour voir un peu? Combien ça pèse un animal comme ça?
Là les femelles sont à 150 kg, les mâles font 180.
Le président de région n'a pas manqué d'intérêt pour les animaux. Un zoo qui a donc pu bénéficier du prêt Covid-19 trésorerie à hauteur de 200 000 euros sous forme de prêt à taux zéro. Et c'est l'une des mesures prises par la région pour soutenir l'économie. Hervé Morin.
Écoutez, nous, région, on est là d'une part dans nos champs de nos compétences, soutenir l'économie. Nous participons au Fonds de solidarité nationale. Nous avons créé un fonds particulier avec les intercommunalités pour les entreprises de 0 à 2 salariés et qui ne sont pas couverts par le Fonds de solidarité nationale, c'est-à-dire les entreprises ayant moins d'un an d'existence et celles qui ont perdu entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires, puisque le Fonds de solidarité n'intervient que pour celles qui ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Et puis, on a tout ce tissu de PME dans des domaines les plus variés qui ont des problématiques de fonds de roulement, de trésorerie, qui n'ont pas pu mettre en chômage technique parce que leur activité ne le permet pas, et un zoo, c'est très symbolique. Les animaux, il faut les nourrir tous les jours, il faut les soigner, il faut que le vétérinaire passe, les infrastructures, il faut les entretenir. Et donc, très clairement, avec des besoins en trésorerie importants sur lesquels la région doit pouvoir être là pour faire en sorte qu'un bel outil de facteur de développement touristique et d'attractivité ne disparaisse pas. Mais j'allais dire, c'est valable pour un zoo comme beaucoup d'entreprises traditionnelles qui bénéficient du fonds de garantie et des prêts garantis par l'État, mais qui ont besoin de concours supplémentaires. Et donc on essaie autant que possible d'être là. Mais honnêtement, l'équation est compliquée.
Ce soutien est évidemment le bienvenu pour le parc zoologique qui reste dans l'attente d'informations concernant sa réouverture. Le directeur du parc, Guillaume Houry.
On est des entreprises un peu atypiques, c'est-à-dire qu'on a des charges incompressibles, qui sont les animaux, et ça, effectivement, on veut pas lésiner sur cette partie économique-là. Mais notre financement est lié à 100% à nos visiteurs. Donc sans visiteurs, on n'a plus de financement, donc ça, tout devient beaucoup plus compliqué. L'aide de la région, c'est une bouffée d'air, effectivement, c'est indispensable à la survie de l'entreprise, hein, tout simplement, dans cette période vraiment compliquée. D'autant plus qu'on n'a pas réellement de stratégie de déconfinement ni de visibilité à moyen terme, on va dire. Donc ça rend les choses encore plus compliquées. Et ben, on a dû réorganiser les équipes en interne, c'est-à-dire que maintenant, chacun va avoir un vestiaire, on va éviter de se réunir aux mêmes endroits, les soigneurs portent des masques quand ils sont au contact des animaux ou d'un autre soigneur. Donc effectivement, c'est des habitudes qui changent, mais je pense que le monde de demain sera fait malheureusement ainsi, et il va falloir s'adapter à cette nouvelle situation. Donc voilà, on est dans l'obligation de s'y soumettre.
Et le zoo de Jurc, c'est 16 salariés sur l'année, un effectif qui double l'été avec les saisonniers, mais le recrutement de ces derniers a pour le moment été mis en stand-by. C'est ce mardi après-midi, donc, devant l'Assemblée nationale, qu'Édouard Philippe doit dévoiler son plan pour permettre à la France de sortir du confinement le 11 mai. Comment distribuer les masques? Comment isoler les malades? Comment organiser la reprise à l'école et dans les transports? Quelle politique de test adopter? Le Premier ministre devrait répondre à toutes ces questions, une intervention qui sera suivie d'un débat, puis d'un vote des députés. Ce plan devrait intégrer le très controversé traçage numérique de nos contacts avec l'application Stop Covid, une application que certains jugent, y compris dans les rangs de la majorité, inefficace et dangereuse pour la démocratie. Un point de vue que ne partage pas le député La République En Marche du Bessin, Bertrand Bouix. Lui, y est favorable.
Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que l'application Stop Covid ne procède pas à la géolocalisation. Donc c'est d'abord une application d'alerte et de signalement. Cette application, elle ne reprend ni plus ni moins que les dispositions qui sont faites par des organisations de santé pour interroger les personnes sur les contacts qu'elles ont pu avoir. Et ça, d'ordinaire, c'est fait de manière manuscrite. Donc Stop Covid, ça est une application qui va permettre d'alerter des personnes qui auraient pu être en contact avec une personne positive. Les données médicales sont détenues par une autorité de santé, donc par un tiers. Elles sont donc confidentielles L'anonymat des utilisateurs est également garanti. Et l'application, il faut le rappeler, est une application open source. Donc n'importe qui peut avoir accès au code. Tout ce qui remonte aujourd'hui, ce n'est pas une atteinte aux libertés individuelles. C'est plus une question, à mon sens, d'égalité territoriale. Tous les Français ne pourront peut-être pas télécharger l'application. Il y aura donc des différences entre certains territoires et certains Français.
Le député du Bessin Bertrand Bouix avec Julien Caillard. Dans ce contexte de confinement, le lycée agricole de Vire lance ce mardi ses portes ouvertes à destination des futurs élèves et de leurs parents. Dites comme ça, l'information a de quoi surprendre puisque l'établissement est bien sûr fermé. Il s'agit en fait de portes ouvertes virtuelles, une idée originale pour découvrir à distance le campus agricole des Champs de Tracy et les nombreuses formations dispensé sur le site. Frédéric Regour est le directeur adjoint du lycée agricole de Vire.
Tous les établissements ont le même problème, c'est-à-dire qu'il faut montrer les formations qu'on a, il faut aller au contact du public et des futurs élèves. Et habituellement, on le fait par le biais de journées portes ouvertes en présentiel, qui est une sorte de grande fête pour nous, mais surtout une façon de montrer un petit peu notre savoir-faire et nos formations. Cette année, c'était le 14 mars, donc le jour du confinement, donc on était un petit peu déçus au moment des annonces, mais on a compris complètement ce qu'a demandé le gouvernement. Du coup, on a un petit peu réfléchi, on s'est dit que les journées portes ouvertes, il fallait qu'elles aient lieu coûte que coûte, et du coup, on va faire des journées portes ouvertes virtuelles, à savoir qu'on va avoir des salles de visioconférence ouvertes par filière, hein, la filière agriculture, la filière aménagement paysager, filière commerce, filière environnement, dans lesquelles les jeunes, les familles, tous ceux qui sont intéressés par nos formations pourront poser des questions et pourront se renseigner sur le type de formation qui se déroule au campus agricole de Vire.
Et rendez-vous donc sur tracy-vire.fr pour ces portes ouvertes virtuelles aujourd'hui, demain et jeudi de 6h à 16h. Et ça concerne donc le lycée agricole de Vire. En cette période de confinement, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation n'a pas pu se tenir normalement devant le monument des déportés à Bayeux dimanche dernier. La ville de Bayeux a toutefois déposé une gerbe de fleurs en toute discrétion. À Bayeux, toujours après la livraison, c'était l'heure du montage des masques. Hier après-midi, des bénévoles se sont retrouvés à l'appel du CCAS pour assembler ces masques fabriqués par la société manchoise Saint-James. Du côté de Balleroy-sur-Drôme, Gilbert Montagne, le maire et les élus ont fait le choix d'investir l'argent prévu pour le feu d'artifice dans des masques alternatifs fabriqués par Caroline Binet d'Eldange à Balleroy. Les 1500 masques seront distribués juste après le 11 mai. La municipalité du en Suisse normande fabrique, elle, ses propres masques. Chaque matin, des élus et employés communaux s'installent dans un atelier de confection éphémère de masques alternatifs. Un appel aux dons de tissus et surtout d'élastiques, qu'ils soient ronds ou plats, a été lancé. Il est possible de contacter la mairie 02 31 79 72 71. Les personnes souhaitant apporter leur aide pour la confection sont également les bienvenues. Puis durant le confinement, la municipalité du Homme toujours a décidé de verser directement aux familles l'aide aux cantines. 24 foyers sont concernés pour un total de 2 500 euros. L'abbaye de Juvemondé se visite virtuellement pendant le confinement. Les frères de l'abbaye célèbrent la messe et chantent l'office à huis clos. Il est possible d'assister aux vêpres en écoutant l'enregistrement sur le site de l'abbaye à partir de 19h30. Par ailleurs, les visites n'étant pas autorisées, la communauté a mis en ligne une vidéo qui permet une visite virtuelle de l'abbaye de style classique. Rendez-vous sur monday.com. Et puis le 17e défi de la pierre percée dans le bocage reporté à 2021. L'épreuve nature multisport était prévue à la fin du mois de juin à Saint-Germain-de-Talvande. Elle ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année en raison du coronavirus.